RFI.
Salut, c'est Steven Jambeau de l'Atelier des médias. On est ensemble pendant 20 minutes à la radio, plus encore si vous avez choisi notre podcast. Si tout le monde connaît Facebook, y compris ceux qui n'y ont pas accès comme les Chinois, nul ne connaît vraiment Mark Zuckerberg. Pourtant, Facebook, c'est Mark Zuckerberg, et Mark Zuckerberg, c'est Facebook, écrit Julien Lebotte, qui est mon invité.
Je confirme.
Tu vois, ça c'était énigmatique, donc tu t'exprimes en code.
Je cherchais pas à être énigmatique.
Je dis que je dois faire quelque chose de remarquable pour attirer l'attention de ces clubs.
Pourquoi ?
Parce qu'ils sont selects. Qui sont ludiques et qu'ils embellissent la vie.
Theodore Roosevelt n'a pas été élu président parce qu'il était membre du Phoenix d'Harvard.
Il était membre du Porcelain et si, c'est le cas.
Et pourquoi t'essaierais pas de devenir le meilleur Mark Zuckerberg que tu peux être ?
Tu te rends compte de ce que tu dis ?
Je plaisantais.
Bonjour Julien.
Bonjour Steven.
Ça me fait immensément plaisir de te recevoir aujourd'hui dans l'Atelier des médias, une émission que tu connais bien pour l'avoir présentée il y a quelques années. Donc bienvenue.
Merci, plaisir de partager évidemment.
Alors si je te reçois aujourd'hui, c'est parce que tu publies aux éditions Solin chez Actes Sud, Dans la tête de Mark Zuckerberg, fruit de nombreux mois d'enquête. Alors ce livre que j'ai dévoré ne contient pas de révélations fracassantes, mais il décortique méticuleusement en français, avec moult détails, le système Facebook et il permet aussi d'essayer de cerner, si tant est que cela soit possible, cet homme qui est un des géants de ce monde, Mark Zuckerberg. Mais le patron de Facebook, on va le voir avec toi, ne vit pas dans le même monde que nous, puisque, je te cite Julien, son monde, c'est Facebook. Pourquoi avoir décidé de travailler sur ce sujet ?
À force de m'intéresser à l'accès à l'information partout dans le monde, que ce soit au Tchad, dans le cadre du Brexit, que ce soit en Europe, aux États-Unis, il était impossible d'aborder cette question-là sans tomber ou sur Facebook ou sur Mark Zuckerberg, ou d'ailleurs sur les familles d'applications de Facebook que sont WhatsApp, Messenger ou encore Instagram. Et à un moment donné, je me suis dit, ce qui est quand même assez étrange, c'est que cette personne-là est aux manettes d'une entreprise qui a un pouvoir exorbitant sur notre accès à l'information. Et j'aimerais bien comprendre un peu qui il est. Et c'est vrai qu'aux États-Unis, en anglais, il y a énormément de ressources. Il y a beaucoup de gens extrêmement compétents, beaucoup de gens qui ont beaucoup écrit dessus. Et c'est vrai qu'en français, on est un peu désarmé. Et donc, j'ai pris mon bâton de pèlerin. Je suis parti en Californie. Et puis, depuis Paris aussi, j'ai mené quelques interviews. Ce qui m'a permis de prendre du recul et d'essayer aussi de construire un récit qui repose sur vraiment 15 ans de perspective sur cette entreprise. Et en revenant sur 15 ans de perspective, on peut un peu, en tout cas, espérer regarder ce qui nous attend devant nous.
Alors, tu commences par te plonger déjà dans ce bonhomme, Mark Zuckerberg, né en 1984. Donc maintenant, ça lui fait 35 ans. Son père est dentiste, sa mère psychiatre. Elle arrête de travailler pour s'occuper de lui et de ses trois sœurs. Zuckerberg père aime déjà beaucoup l'informatique. Il l'utilise d'ailleurs dans sa pratique professionnelle. Et le petit Mark crée Zucknet. Son père l'encourage. Zuckerberg, c'était déjà, dès le début, un bosseur, tu l'écris, un travailleur acharné, dès son plus jeune âge. Et donc, il fait des études, il se retrouve à Harvard, et là, eh bien, les études, c'est pas vraiment son truc. Il décide vraiment de pousser très loin dans l'informatique et donc de lancer très très vite finalement de Facebook.
Depuis qu'il est petit, il est hanté par cette question de l'informatique, par les réseaux. Donc Zucknet, c'est le nom de ce petit réseau informatique qui a permis de relier les différents ordinateurs de la maison et du cabinet de son père. Il est, avant de rejoindre Harvard, il est passé par une académie qu'on appelle la Phillips Exeter Academy, qui lui a permis d'être vraiment dans un environnement extrêmement exigeant où il a continué de coder en même temps qu'il apprenait à la fois le grec ancien, le latin et l'histoire romaine. Et arrivé à Harvard, il a donc pris deux disciplines. Sa majeure, c'était la psychologie. Donc, c'est un élément important à comprendre, parce que c'est quelqu'un qui est passionné par ce qu'on appelait autrefois la psychologie des foules et le rapport que l'individu peut avoir avec les relations sociales. Et dans le même temps, donc, il a continué l'informatique. Et en avançant, ben, je pense que cette passion pour l'informatique et cette passion pour ce que la technique et l'outil informatique peut faire pour enrichir l'existence, c'est ce qui, à un moment donné, a été décisif dans ses choix.
Avec aussi une petite dimension de défi, son premier coup en tant que jeune hacker, eh bien, c'est de hacker les serveurs de l'université d'Harvard pour récupérer les photos d'étudiantes.
Alors la question du mot hacker, c'est vraiment très compliqué à utiliser ce mot-là parce que justement je ne suis pas sûr qu'il soit si respectueux de ça, de ce qu'on pourrait appeler l'éthique hacker.
C'est pas un hacker gentil quoi.
C'est pas une question de gentil ou méchant, c'est qu'il a une vision très singulière et restrictive de la question de la liberté de circulation de l'information, a fortiori dans la mesure où pour lui, sa passion, son admiration, elle va plutôt vers des personnages comme Bill Gates qui sont des entrepreneurs et des gens qui ont une vision propriétaire de l'information plus que d'autres courants qui ont irrigué la contre-culture californienne et l'informatique dans les années 70-80 aux États-Unis. Voilà.
Mais il s'en prend en fait à la vie privée, j'ai envie de dire, dès le début. C'est-à-dire qu'en récupérant les photos d'abord d'étudiantes sur les serveurs de l'université d'Harvard, puis après en créant l'embryon de Facebook et en demandant aux gens de poster eux-mêmes des informations sur eux, en fait.
Oui, alors c'est vrai qu'il a d'abord commencé à passer en force, c'est-à-dire que ce piratage dont tu parlais, c'est vraiment l'idée selon laquelle, bon allez, on va, les institutions ne sont pas prêtes à suivre, et pourtant il y a une demande, il y a un besoin. Plusieurs fois, je raconte un peu dans le livre, ces moments où entre étudiants, il y a presque cette demande qui est formulée par des étudiants, qui est de dire, bah, franchement, les annuaires entre étudiants sur version papier, c'est sympa, mais on pourrait quand même le faire de manière informatique. Et on l'a tous vécu, le fait que parfois, dans les institutions qui nous environnent, les choses sont un peu lentes quand il faut lancer un projet numérique ou que sais-je. Donc lui s'est dit, bah, je vais passer en force, je vais récupérer ces photos et on va donc fabriquer, à proprement parler, ce Facebook, donc ce répertoire, ce trombinoscope avec tous les visages de tous les étudiants. Et l'étape suivante, ça a été bah, du coup de permettre à chacun, alors est-ce que c'est de permettre ou de demander à chacun de remplir et d'indiquer toutes les données personnelles en passant par des coordonnées pour les joindre ou des credos politiques. Voilà, après on peut aller très très loin dans le fait de demander à chacun de compléter son profil et d'indiquer qui il est.
Voilà, là où maintenant on est 15 ans plus tard, et tu l'écris dans ton livre, son grand fait d'armes à Mark Zuckerberg est d'avoir réussi à mettre fin à la vie privée de 2 milliards d'utilisateurs dans le monde. C'est énorme.
C'est énorme, et il est quand même obligé de concéder, au moins dans les discours, que la vie privée, ce qu'il a appelé le salon, devait occuper encore une place dans nos existences. C'est-à-dire que on voit bien que la question du secret versus la question de la transparence, c'est un truc vieux comme l'informatique, c'est-à-dire à quel moment donné est-ce qu'on doit faire table rase de tout accès à toute forme d'information.
Et mais de quelle vie privée parle-t-il justement dans ses discours? Parce que vous l'écrivez aussi, Zuckerberg se dit en fait que la vie privée doit être transformée, il faut l'abolir pour la réinventer.
Oui, parce que il a une conviction extrêmement profonde qui est que l'outil informatique est ce qui permet, en un certain sens, de nous réconcilier à la fois avec nous-mêmes et avec les autres. Par la meilleure connaissance de l'altérité, par le meilleur accès à l'information, et donc l'information entendue au sens large, c'est comme ça finalement qu'on va créer une sorte de vaste mouvement qui nous conduira à une grande empathie, et cette empathie va nous emmener vers la paix, le bonheur, la connaissance, enfin, on pourrait presque, et d'ailleurs il l'a dit lui-même, dire que cette compagnie a plaidé une forme d'optimisme, voire de naïveté, en pensant que par la libération à outrance de toutes ces données personnelles, au bout du compte, nous serions tous capables de mieux comprendre l'individu qui est de l'autre côté de la rue ou sur un autre continent à l'autre bout du monde, et que tout ceci nous conduirait finalement à une forme de progrès, de réconciliation ultime et de cosmopolitisme. Et je pense qu'il y a vraiment un immense malentendu, et on peut comme ça créer cette immense trajectoire depuis cette mésinterprétation de l'éthique hacker qui l'a conduit à vouloir comme ça pirater et passer en force sur la question de la libération entre guillemets des données personnelles, jusqu'à justement le fait de créer cette immense place publique, en tout cas c'est une place publique revendiquée, alors qu'en réalité c'est un centre commercial, c'est un espace privé. C'est là l'ambiguïté, elle est fondamentale et elle est très très problématique.
Et en même temps, Julien, tu l'écris dans ton livre, Mark Zuckerberg maîtrise toutes les options pour protéger sa vie privée. Donc j'imagine que tu as décortiqué sa page Facebook, tout ce qu'il a pu partager en ligne, c'est quelqu'un qui est dans le contrôle tout
le
temps.
Ça me fait plaisir que tu poses cette question parce que je me suis amusé vraiment à stalker Mark Zuckerberg. Donc c'est quoi stalker?
Regardez dans le détail en ligne ce qu'il y a sur lui.
Je trouve que le bon verbe c'est épier. Voilà, épier c'est formidable parce que ça permet en fait de se dire qu'on va le prendre à son propre jeu et qu'on va essayer de comprendre qui il est. Alors évidemment aujourd'hui, maintenant qu'il est suivi par des millions voire des milliards de personnes, il est évidemment accompagné par les relations publiques de Facebook. Et d'ailleurs on voit qu'il prend des photos qui sont souvent plutôt moches. C'est soit un petit beubené, soit on sent que ça a été un peu revu par les RP, donc du coup c'est sirupeux, c'est sans intérêt. Mais voilà, donc je l'ai pris à son propre jeu par rapport à ça. Et après, le vrai stalking, donc ce que j'ai vraiment épié en profondeur, c'est ce qu'on appelle donc les Zuckerberg Files. Et ça, c'est beaucoup plus intéressant, c'est-à-dire qu'il y a un groupe d'étudiants et un professeur aux États-Unis qui s'appelle Michael Zimmer, qui a constitué une base de données qui, entre février 2004, c'est-à-dire la création de Facebook, et aujourd'hui, compile l'ensemble des déclarations publiques de Mark Zuckerberg pour nous permettre de prendre du recul sur ce qu'il raconte. Et donc Donc ça va depuis le fait d'avoir une hiérarchisation extrêmement précise de l'ensemble de ces petits posts, par exemple sur Facebook, et au début ça pouvait être 2-3 lignes avec une photo complètement anodine, jusqu'à de longues tirades sur la liberté d'expression à Georgetown University récemment. L'idée, c'est d'utiliser l'ensemble de ces ressources et de cette documentation pour interroger en profondeur les concepts qu'il peut utiliser, les idées clés, les références historiques, les concepts philosophiques, bref, d'essayer vraiment de prendre Mark Zuckerberg à son propre jeu et de le stalker pour essayer d'en tirer quelque part des bobines, des ficelles, des hypothèses et comprendre ce qu'il pense.
Est-ce qu'il est facile à approcher Mark Zuckerberg ? Parce que tu ne l'as pas rencontré pour les besoins de ce livre.
Alors évidemment, la première chose à laquelle j'ai songé, ça a été de le contacter pour essayer de l'interviewer, en étant évidemment lucide sur les limites de l'exercice, puisque si interview j'avais pu avoir, évidemment, ça aurait été très contraint, avec très peu de temps, sans doute avec des relations publiques, encore une fois, derrière, pour être bien vigilant sur ce qu'on lui aurait pu dire, et voilà. Non, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai contacté plusieurs fois. À chaque fois, j'ai eu « nous allons revenir vers vous très très rapidement » de la part de Facebook. Évidemment, au bout d'un moment, c'était le silence. Malgré tout, je suis allé en Californie, j'ai insisté, je suis allé me promener tous les jours autour de Facebook. J'ai quelque part épié le fonctionnement de l'entreprise en me promenant le long des marais salants qui sont au bord de Menlo Park, en regardant tous ces petits joggeurs, ingénieurs qui venaient respirer entre deux lignes de code et trois concepts marketing. Et puis, rentré à Paris, j'ai continué régulièrement en fait, à envoyer des mails pour demander une interview que je n'ai jamais obtenue.
Mais en Californie, on ne peut pas approcher de la maison de Mark Zuckerberg. D'ailleurs, il a racheté les maisons autour de sa propre propriété pour que personne ne puisse approcher de son chez-lui.
On peut s'en approcher, mais on ne peut pas évidemment rentrer sur le terrain, ce sont des propriétés privées. On peut s'en approcher, on peut tourner autour de Menlo Park, même si on apprenait récemment que Facebook donne et alloue 2 millions de dollars à la police locale pour avoir une sorte d'élite, plutôt d'unité spéciale de la police pour être particulièrement vigilant autour de Menlo Park. Donc c'est quand même une entreprise qui est extrêmement puissante et lui est évidemment extrêmement jaloux de sa vie privée. Et d'une certaine manière, on peut le comprendre puisque c'est tous aussi ce dont on a envie. Et voilà, donc on peut s'en approcher, mais évidemment jusqu'à un certain seuil, jusqu'à un certain point.
Est-ce que tu as trouvé ou tu as analysé que son attitude et son comportement avaient changé depuis le scandale Cambridge Analytica, qui, bon, on rappelle l'histoire de cette entreprise qui aurait exploité les données personnelles utilisateurs sur Facebook pour influencer la présidentielle américaine ou le vote pour le Brexit au Royaume-Uni.
Alors, ce qui est très compliqué, c'est qu'aujourd'hui, Facebook, c'est un peu l'ennemi utile de tout le monde. Et donc, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'entreprises qui se comportent extrêmement mal dans la Silicon Valley. Facebook est l'une d'elles et c'est vrai qu'aujourd'hui l'attention est entre guillemets surfocalisée sur cette entreprise en raison notamment de son poids et de sa puissance. Quant à Mark Zuckerberg lui-même, et c'est par exemple ce que m'a indiqué l'un des journalistes de Wired qui a profondément enquêté et qui connaît Mark Zuckerberg depuis quelque part ses débuts en tant que président de Facebook, qui m'a expliqué que tout le monde a été extrêmement surpris puisque Mark Zuckerberg a mis beaucoup de temps à réagir quand...
Cinq jours,
c'est énorme quand on a une entreprise et un scandale de cette ampleur. Et en revanche, je crois qu'à partir du moment où il y a eu cette prise de conscience... Il faut reconnaître que il y a eu un virage qui a été pris par Mark Zuckerberg, mais j'ai envie de dire qu'avec le recul, parce qu'on peut avoir maintenant un peu de recul par rapport à 2018, je pense qu'il a bougé, qu'il a investi beaucoup sur ce qu'il appelle la sécurité des utilisateurs, l'intégrité des élections, la vigilance sur les acteurs de la désinformation, mais malgré tous ses efforts, malgré tous ses investissements, j'ai envie de dire que le cap est grosso maintenu. Quand bien même il a essayé de disposer quelques, je dirais, aérofreins ici pour ralentir la course folle de cette créature qui brasse et qui malaxe, encore une fois, des dizaines de millions de postes à la minute partout dans le monde.
Julien Lebotte, ce que tu expliques aussi dans ce livre sur Mark Zuckerberg, c'est qu'il a su, avec Facebook, annexer le débat public en fabriquant la plus grande machine au monde à redistribuer de l'attention. Quitte à créer de l'attention ou une addictivité, de la dopamine, même le mot revient plusieurs reprises dans le livre, pour rendre des gens addicts, en fait, drogués à un outil.
Le modèle économique, pour ainsi dire, de Facebook, c'est tout simplement le fait de nous garder un maximum de temps sur sa plateforme pour nous exposer à des publicités qui sont ciblées. En un certain sens, c'est la quintessence de ce que TF1, il y a quelques années en France, a essayé de faire en disant que voilà, il s'agissait de conquérir du temps de cerveau disponible. Bah, grosso modo, c'est exactement la même chose. Sauf que, à la différence, entre guillemets, de TF1 qui, à sa façon, posait beaucoup de questions par rapport à la régulation et la gestion de l'espace public et du débat public, là, on se retrouve avec une plateforme plateforme qui est omniprésente partout, avec des acteurs pas toujours bien intentionnés, qui savent parfaitement utiliser les tuyaux ou tous les multiples points d'entrée de cette plateforme, tout simplement pour cibler des individus. Parce que ce ciblage-là, c'est l'immense différence entre des mass médias, que RFI est un mass média, c'est-à-dire qu'on est sur une antenne et on diffuse à qui veut bien nous entendre. La différence avec Facebook, c'est que Facebook est capable, par exemple, de garantir, pour prendre un exemple, aux Républicains, qu'ils pourront cibler des individus en vertu de leurs convictions, de leurs doutes, de leurs faiblesses, de leurs likes antécédents. C'est pour ça que j'aime bien une expression qui est de dire « surveiller et prédire ». C'est-à-dire qu'on a une machine qui est faite pour nous connaître de part en part, en permanence observer les likes, les sourires, les commentaires, pour essayer de mesurer quels sont à la fois nos réseaux d'amitié, nos sympathies, nos goûts, nos doutes, etc. Et derrière, tout ça est repackagé et resservi sous forme d'une régie publicitaire extrêmement puissante à des organisations, ça va de Coca-Cola à des acteurs étatiques en passant par des ONG qui derrière sont contents par exemple de pouvoir nous cibler, ne serait-ce que sur de la, par exemple, de la publicité politique qui sait trouver les publics vers lesquels elle souhaite s'adresser. Et ça, dans un média, j'ai envie de dire du 20e siècle, c'est impossible, ou en tout cas c'est beaucoup plus difficile. Et cette puissance de feu sur le ciblage, c'est précisément ce qui interroge en matière de désinformation.
Et c'est le modèle économique de Facebook depuis le début, c'est-à-dire qu'on se souvient de l'audition de Mark Zuckerberg au Sénat où quelqu'un ou un sénateur lui demande « Mais Mark Zuckerberg, comment Facebook fait-il pour gagner de l'argent et rester gratuit ?»
Sénateur, nous vendons de la publicité. Il a été extrêmement clair depuis le début là-dessus, c'est-à-dire que Facebook... c'est un centre commercial, c'est une régie publicitaire. Donc d'un point de vue utilisateur, moi je veux dire, je trouve ça formidable par certains aspects de pouvoir rester en relation avec des amis que j'ai vus il y a quelques années, que je recroise au Liban, des gens en Afrique. C'est très très sympa quand on regarde de très très loin en tant qu'utilisateur. Mais quand on comprend en quoi le modèle économique est en train de transformer cette machine en machine justement à désinformer, ça devient extrêmement inquiétant. C'est comme si finalement les données personnelles qu'on consentait à livrer à cette plateforme, au bout d'un moment, elles se retournent tourner contre nous, puisque comme c'est aussi un point d'accès vers l'information, ça devient extrêmement dangereux, puisqu'on risque de n'avoir un accès qu'à des informations qui nous ciblent en vertu, encore une fois, de nos convictions, de nos doutes, etc. etc. D'où ces expressions de bulles de filtre, de bulles d'information. Voilà, on est dans un environnement qui n'est pas un environnement neutre. Mark Zuckerberg passe son temps à dire... Facebook, c'est une technologie, donc en ce sens, nous sommes neutres. La réalité de son modèle économique, c'est que ça conduit la plateforme à distribuer des informations de manière orientée.
Et ça, c'est de l'argent. Et donc, tu rappelles, par exemple, qu'un utilisateur américain de Facebook rapporte à Facebook quelque chose comme $35 par trimestre. C'est énorme.
C'est énorme. Alors, évidemment, le revenu moyen par utilisateur en fonction des continents est extrêmement variable. Et effectivement, l'Amérique du Nord et l'Europe sont les continents où Facebook gagne un maximum d'argent puisque la publicité se vend plus cher dans ces régions-là.
Alors, Mark Zuckerberg, depuis le début, très rapidement après avoir lancé Facebook, a voulu connecter le monde entier, aller le plus loin possible. Pour ça, eh bien, il est capable parfois aussi de s'entendre ou qu'il y ait des accords avec certains régimes, y compris des régimes autoritaires, pour faire, pas forcément disparaître de la plateforme, mais au moins que l'algorithme ne fasse pas remonter sur la plateforme eh bien, des contenus qui pourraient être un petit peu critiques envers certains États, par exemple, ou certains régimes.
Sur le temps long, en tout cas, on observe que l'une des convictions profondes de Mark Zuckerberg, c'est de dire « je suis un virtuose des systèmes, je fabrique une immense place publique et ma conviction profonde, c'est qu'il faut connecter. » C'est presque une question philosophique, c'est ce que j'ai tout à l'heure, une religiosité, c'est-à-dire que pour lui, par la confrontation des discours, par le partage des données, nous allons vers une forme de réconciliation. Et voilà, partant de cet horizon-là, ça lui a conduit à essayer, tant que faire se peut, par tous les moyens, d'essayer de développer sa plateforme. Et un exemple intéressant, par exemple, c'est la Chine. Aujourd'hui, il est en train de dire à tout le monde, puisqu'il y a la tentation de la régulation, de dire, non, mais attendez, la Chine, c'est du discours qui est censuré. Facebook, c'est une boîte qui est née sur le territoire du free speech, c'est-à-dire de la liberté d'expression. Sauf qu'il y a quelques années encore, quand Facebook essayait de trouver des relais de croissance en Chine, Facebook étudiait les meilleures modalités d'interaction avec les régulateurs locaux, donc en Chine, pour éventuellement envisager que des contenus qui pourraient être critiques vis-à-vis du régime chinois n'apparaissent pas pour les utilisateurs qui sont connectés depuis la Chine. Donc, vraiment, je pense qu'il faut partir de cette ambition et cette conviction profonde de Mark Zuckerberg, il souhaite connecter le monde entier.
Et il s'était rendu en Chine, justement, on se souvient de cette photo où on le voit en train de faire...
De courir
sur la place Tiananmen, ou d'autres séquences où il avait carrément mis le costume. Quand Mark Zuckerberg met un costume, c'est que c'est vraiment du sérieux. Hein.
Quand il met un costume, c'est que c'est du sérieux. On l'a vu, par exemple, récemment encore, quand il est passé devant le Congrès. Le costume, il lui sert quand il rencontre Emmanuel Macron, quand il va au Congrès, ou éventuellement quand il va en Chine. Cela dit, le discours sur la liberté d'expression, il avait un petit polo noir. C'est-à-dire que dans le travail que j'ai fait, qui est intéressant, c'est d'essayer toujours de confronter à la fois les discours, la façon d'apparaître et de sentir le personnage derrière toutes ces apparitions publiques. Et dans le cas chinois, ce qui est assez marrant, c'est que il a appris le mandarin extrêmement tôt, pas seulement parce que sa femme et la famille de sa femme parlent mandarin, mais aussi parce que pour lui, c'était une façon d'avoir un levier pour conquérir et convaincre les dirigeants chinois du fait que Facebook pouvait venir mener des activités économiques. Il n'était pas du tout question de free speech, des questions économiques en Chine.
Mark Zuckerberg n'est pas toujours à l'aise dans sa communication, tu l'expliques à plusieurs reprises dans ton livre, mais un des moments forts de sa communication chaque année, c'est ce défi qu'il se lance au début de chaque année. Alors, on a eu porter une cravate tous les jours, parler le mandarin, tu le disais, devenir végétarien, lire 25 ou 30 livres dans l'année, et il y a une année où il s'était lancé dans un tour des États-Unis, en fait. En 2017, avec l'idée d'aller à la rencontre des Américains, des vrais Américains. Et à un moment, on s'est dit, OK, il va se lancer en politique.
C'est vrai que 2017, c'est une année un peu charnière parce que il y a eu donc les élections de 2016 qui ont conduit à l'élection de Donald Trump et qui font que très tôt, beaucoup de gens se sont dit, non mais Facebook, vous avez une responsabilité là-dedans. Vraiment, ça va pas du tout. Mais lui, il était sur sa trajectoire. C'était The Connector, c'est-à-dire l'homme qui va connecter le monde entier. Et aux États-Unis, je pense qu'il a eu envie quelque part. Il s'est senti pousser des ailes en se disant qu'il allait rencontrer tous ces gens qui utilisent des pages Facebook pour développer leurs activités économiques, de cette société civile qui s'empare des outils de Facebook pour apporter des solutions ici ou là. Et d'ailleurs, parfois, effectivement, ça remplit des services Facebook. Faut pas être complètement manichéen. Sauf que, en parallèle de tout ça, donc Facebook était en train de s'enfoncer dans un scandale qu'il ne percevait pas. Et donc, de l'extérieur, les journalistes commençaient à se dire, est-ce qu'on n'a pas quelqu'un qui est en train de se sentir des voiles et pousser des ailes pour devenir peut-être le candidat démocrate de 2020? Et en réalité, je pense qu'il a jamais vraiment eu cette intention. Je pense que, en revanche, il était vraiment en train de militer pour sa cause, pour la cause de Facebook, avec la sensation, encore une fois, que sa plateforme était au service du débat public, d'une Amérique libérée, de l'économie numérique. Enfin, je pense vraiment qu'il était profondément convaincu que ce combat pour la connexion était bon pour l'Amérique et bon pour le monde entier.
Alors Mark Zuckerberg a une fortune évaluée à plus de 56 milliards de dollars, soit, tu le dis grosso modo, le budget de l'éducation nationale en France. Et pourtant, il continue à encore mettre les mains dans le cambouis, à être réellement présent auprès des équipes de Facebook.
Et je pense qu'il est habité par une mission, encore une fois. Et d'ailleurs, il a mis beaucoup de temps, en fait, entre guillemets, avant d'investir dans l'immobilier. Je le raconte un petit peu. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il a vécu, entre guillemets, modestement. Il aime pas spécialement les grosses bagnoles. Il ne collectionne pas d'art contemporain. Bon, il a mis un peu d'argent sur de l'immobilier avec donc une immense propriété à Hawaï, une belle maison à San Francisco. Enfin bref, il a investi ici ou là. Mais en réalité, je pense que c'est quelqu'un qui, à mon avis, ira entre guillemets, jusqu'au bout et le plus loin possible avec Facebook. Je pense que c'est un informaticien et un entrepreneur, mais qui pense vraiment qu'il doit vendre sa technologie pour le progrès, pour l'humanité. Enfin, il n'est pas motivé que par le seul appât du gain, il est vraiment convaincu que son techno-optimisme apportera, au bout du compte, de bonnes choses à l'humanité. C'est pour ça d'ailleurs qu'en ouverture de livre, je cite à la fois Frankenstein et Voltaire. C'est-à-dire qu'on a cette espèce de tension entre un personnage qui crée une créature, qui peut-être ultimement l'histoire nous l'apprendra, pourrait dire, vous voyez, j'ai eu raison de mettre tout le monde sur cette même plateforme. Et dans le même temps, cette œuvre Candide donc de Voltaire qui raconte bien comment parfois l'optimisme peut nous conduire au pire et quand bien même on n'est pas capable de regarder ce qui se passe sous nos yeux.
On va revenir sur l'optimisme, juste pour préciser aussi que Mark Zuckerberg a une entreprise philanthropique, la Chan Zuckerberg Initiative, donc qui porte son nom et le nom de son épouse, et qui là travaille sur le temps long sur le futur, c'est de la prospective avec l'idée de travailler sur la santé, l'éducation, la recherche scientifique, l'énergie. Par exemple, sur la santé, guérir toutes les maladies.
Ouais, c'est l'objectif. Vous voyez le truc, c'est énorme. C'est une hubris, une immodestie incroyable. Et d'ailleurs, Bill Gates, enfin, faut savoir que Mark Zuckerberg, depuis le début, a une admiration sans borne pour Bill Gates. Bill Gates qui s'est fait connaître après Microsoft en lançant donc sa fondation Bill et Melinda Gates. Bill Gates, il essaie de se confronter à des choses extrêmement concrètes et pourtant, Dieu sait qu'on peut, voilà. Mais la vaccination, par exemple, ou des choses autour de l'énergie, les toilettes et la gestion des eaux usées, Mark Zuckerberg, lui, comme toujours, en passionné des systèmes, en passionné des grands concepts, s'est lancé vraiment dans des chantiers qui sont d'une immodestie incroyable. Par exemple, mettre fin à toutes les maladies incurables.
Et donc l'idée, selon lui, il veut faire un petit peu comme Bill Gates, c'est-à-dire qu'à terme, 99% de sa fortune soit dédiée, voilà, à ses fins philanthropiques. Alors actuellement, ça représente, tu le dis dans ton livre, 700 à 800 millions de dollars de budget annuel, hein, la Chan Zuckerberg Initiative. Mais donc l'idée, c'est que ce soit encore plus. Et que ça monte en puissance.
Il faut savoir que le budget opérationnel, par exemple, de fondations comme la fondation Bill et Melinda Gates, c'est plus que le budget de l'OMS. Si on regarde de la fondation dont Chan Zuckerberg Initiative, ils ont énormément de moyens et ils mettent donc, encore une fois, énormément d'argent sur des chantiers de très, très, très long terme. Donc, moi, on peut ne pas être opposé au fait de se lancer dans de la recherche entre guillemets fondamentale. Ce qui est très troublant, c'est d'avoir su amasser autant d'argent et qu'on ne dispose d'aucun contre-pouvoir pour décider avec eux quels sont les chantiers fondamentaux sur lesquels il faudrait qu'on lance des recherches. Et c'est souvent le problème de Facebook et c'est souvent le problème de Mark Zuckerberg, c'est-à-dire qu'on ne dispose d'aucun contre-pouvoir. On peut considérer qu'il est normal, quand on est aussi virtuose dans la gestion des systèmes, de gagner un peu, voire beaucoup d'argent, mais là, ce sont des sommes qui sont démentielles. Cette plateforme a une puissance inédite et cette fondation, elle-même, elle est en roue libre sur des chantiers où il se détermine tout seul avec sa femme pour choisir quelles sont les recherches dans lesquelles ils vont mettre des centaines de millions de dollars.
Julien Lebotte, on parle avec toi de ton livre « Dans la tête » de Mark Zuckerberg, qui est paru chez Actes Sud, et j'aimerais qu'on se fasse une petite séquence « Questions courtes, réponses courtes ». Donc je le disais tout à l'heure, tu n'as pas rencontré Mark Zuckerberg pour écrire ton livre. Quelle est la première question que tu lui poserais si tu le rencontrais ?
C'est une question extrêmement compliquée. Je pense que j'irai le titiller du côté d'abord de l'optimisme, parce que je pense que c'est pas du tout quelqu'un qui... c'est pas un imbécile, c'est quelqu'un qui s'est beaucoup documenté, qui est passionné par la psychologie des foules, qui a pas mal de références sur l'histoire de l'industrie, qui essaie de se documenter sur l'histoire de la liberté d'expression, etc. Je pense que j'irai le titiller de ce côté.
On a dit court, hein. Est-ce que Mark Zuckerberg est quelqu'un avec qui tu irais bien boire une bière ?
Évidemment, j'ai plein de questions à lui poser.
Quelle proposition de titre ferais-tu à Mark Zuckerberg s'il écrivait son autobiographie ?
Candide.
Qu'est-ce qui donne des cheveux blancs à Mark Zuckerberg ?
Je ne sais pas s'il a des cheveux blancs, mais il est coiffé comme Star Trek récemment, je ne sais pas pourquoi.
Qu'est-ce qui t'a causé des cheveux blancs en écrivant ce livre ?
Ah, ça c'est une question difficile. Je dirais que vraiment j'ai eu affaire à un terrain mouvant. Il y a eu tellement d'informations qui sont sorties sur Facebook que j'ai essayé de contenir le flot de colère pour essayer de restituer sur le temps long les enjeux d'importance qui sont liés à cette plateforme qui s'appelle Facebook.
Que dis-tu aux gens qui mettent des photos de leurs enfants sur Facebook ?
Jamais, jamais, jamais. C'est hyper dangereux, surtout quand on voit en ce moment avec les progrès sur la reconnaissance faciale, le jour où les algorithmes sauront faire le lien entre ces photos anodines de la naissance ou de la plage ou de la sortie scolaire et le profil des années plus tard, ce sera quand même très 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 embêtant.
C'est valable pour Facebook et ses applications
Instagram,
Galaxy.
Oui, exactement.
Instagram, WhatsApp.
Alors oui, quand je dis Facebook, je dis WhatsApp, je dis Instagram, je dis Messenger, je dis toutes les plateformes qui appartiennent à Facebook.
T'en as pas un peu marre de Facebook et de Mark Zuckerberg là ?
Pas du tout, je trouve que c'est une façon très intéressante de poser la question du poids politique des GAFAM, comme on les appelle. Et c'est d'ailleurs pas bien parce que ce sont des réalités très très dissemblables. Donc les Google, Amazon, Facebook, Apple et Microsoft dans une certaine mesure. Non, j'en ai pas marre et je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire, à dire et à écrire sur ces entreprises. Mais il faut aussi d'ailleurs en parallèle s'intéresser à la Chine.
As-tu fait de la promo de ton livre sur Facebook ?
C'est une excellente question. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, Facebook est incontournable et donc je viens de partager hier un événement Facebook annonçant le fait que j'allais rencontrer des lecteurs prochainement.
Pour que ça marche mieux d'ailleurs sur Facebook, il faut créer un groupe ou une page. Hein.
Il faudrait que je fasse ça, mais je ne l'ai pas fait parce que je suis toujours dans cet entre-deux qui fait que cette plateforme me gêne, mais j'en ai pas le choix, il faut que j'y sois.
Bon, quand est-ce que tu quittes Facebook ?
Je ne quitterai pas tant que la plateforme réunira autant d'auditeurs, d'internautes. C'est un lieu de débat public par la force des choses. Donc je pense qu'on aurait tort de tourner le dos à Facebook.
Fin de cette séquence questions courtes, réponses courtes. Quel est le futur ? On va maintenant s'intéresser au futur pour Mark Zuckerberg et pour Facebook. On le disait tout à l'heure, l'idée de Facebook, c'est de connecter le monde, de rendre le monde plus ouvert, plus connecté, et pour les 15 prochaines années, de réinventer la société de manière extrêmement positive. La notion de positivité, d'optimisme, c'est quelque chose qui revient souvent tout le temps dans les prises de parole de Mark Zuckerberg.
Oui, alors exactement, c'est-à-dire qu'on l'abordait un peu tout à l'heure, je pense que il a cette espèce de chevillée au corps, de conviction selon laquelle le progrès est articulé au développement de nouveaux outils, et lui-même considère que là où les technologies sur lesquelles il travaille, elles ont ce qu'il appelle donc des conséquences inattendues, sur lesquelles il faut réussir à apporter ou de la régulation ou de la pondération, mais au bout du compte, l'humanité réconciliée par la confrontation des discours, des photos, des images, voire des lives, nous permettra de mieux nous connaître et sans doute de mieux communier pour faire face aux enjeux globaux que nous connaissons.
Ce qui est intéressant et ce que tu expliques très bien dans ton livre, c'est que quand Mark Zuckerberg a un souci ou quand Facebook a un souci, le patron de Facebook fonctionne toujours en trois temps. D'abord, il commence par s'excuser, puis il explique « Ok, on a bien compris, il y a eu un problème, etc. » Et finalement, il continue et il reproduit le truc, voire il veut aller encore plus loin. C'est toujours ce fonctionnement en trois étapes qui est constitutif en fait de la personnalité même de Mark Zuckerberg.
Je pense que c'est l'intérêt de ce livre et du travail que j'ai fait, c'est de prendre du recul et d'essayer vraiment d'observer sur la grande trajectoire comment à chaque fois, face aux gros enjeux auxquels on a tous été confrontés avec Facebook et sa famille d'applications, comment il a fonctionné. Et systématiquement, prenons l'exemple du newsfeed, donc ce fil d'actualité, tout ceci a commencé par une bronca des internautes et il s'est dit « Oui, vous avez raison, on va faire attention. » Il a regardé les données d'utilisation. Il a donc réussi ensuite à passer en force en disant « Bah finalement, les gens ils sont quand même plutôt contents puisqu'ils en redemandent. » Et derrière tout ça, finalement, il nous a imposé son newsfeed en créant d'ailleurs un groupe Facebook qui s'appelait « Free Flow of Information », rappelant l'idée selon laquelle il faut absolument libérer l'information. C'est-à-dire que ça peut heurter le quotidien, le fait de changer la façon dont l'information circule, mais ultimement pour lui, c'est extrêmement important et l'humanité en tirera un profit. Pour lui, c'est utile de libérer l'information. Je crois que c'est ça qu'il faut prendre en compte.
Et pourtant, nombreux sont les anciens associés ou salariés de Mark Zuckerberg et de Facebook à critiquer parfois très durement le réseau social et sa galaxie, notamment Chris Hughes, un des fondateurs de Facebook, qui dit que Facebook, c'est un monopole qu'il est urgent de démanteler. Certains appellent au retour aux sources de Facebook, à ce que Facebook revienne à sa promesse initiale. Est-ce que Mark Zuckerberg, c'est la personne idéale pour faire repartir de zéro ce machin qu'on appelle Facebook ?
Ce qui est intéressant, c'est pas seulement Chris Hughes qui nous parle de cette nécessité de démanteler cette entreprise qui est devenue trop puissante, et ça je pense qu'on peut assez facilement s'entendre là-dessus, c'est Roger McNamee, qui est un des investisseurs aussi du départ, qui se prétend avoir été une sorte de mentor, qui aurait présenté Sheryl Sandberg, donc la numéro 2 à Mark Zuckerberg. Mais au bout du compte, ils ont bâti cette espèce de créature qui surveille et qui fabrique de la désinformation. Et ça, c'est extrêmement problématique. Donc aujourd'hui, est-ce que Mark Zuckerberg est toujours la bonne personne pour garder les rênes sur cette entreprise ? C'est très compliqué. Ce qui est sûr, c'est qu'il manque et il n'y a pas de contre-pouvoir. À ce stade, c'est quelqu'un qui dispose de 60% des droits de vote au conseil d'administration de cette entreprise. Et cette entreprise, c'est donc un ensemble de familles de technologies et d'applications. C'est ce qui fait qu'on se retrouve avec un homme seul qui dispose de beaucoup d'argent, d'une immense puissance de feu et a décidé ultimement, il est majoritaire. Donc, il n'a pas besoin de chercher tellement le compromis ou le consensus. Il ne discute pas avec des gens dans un conseil d'administration. Il arbitre seul. Alors, on voit aujourd'hui, il essaie un petit peu d'avoir des stratégies de diversion. Par exemple, sur la question de la régulation du discours, il demande au gouvernement de bien réfléchir à ce qu'on voulait faire en matière de liberté d'expression. Et d'autre part, il essaie d'externaliser les risques en créant ce qu'on a appelé l'oversight board. Donc, des gens ont traduit ça par cour d'appel, cour suprême. L'idée selon laquelle, en fait, en gros, on pouvait imaginer qu'un consortium ou plutôt un groupe d'internautes et d'experts pouvait nous aider à arbitrer ce qui était dissible et pas dissible sur la plateforme. Pour lui, c'est une façon de dire « Moi, mon travail, c'est la tech. » Mais la technologie, en tout cas, lui, il reste maître de cette technologie puisqu'il a 60%, encore une fois, des droits de vote au conseil d'administration de Facebook.
Facebook a plus de 15 ans maintenant. Mark Zuckerberg a-t-il compris qu'un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ?
C'est une excellente question parce que j'ai l'impression que plus on avance dans le temps, plus il sent le poids de ses responsabilités. Et si on repart sur la longue histoire, entre guillemets, de Facebook, 15 ans, ça commence à faire, je pense que il va corriger un petit peu le tir, mais il y a de fortes chances qu'il soit déterminé à continuer. Et d'ailleurs, on le voit, puisque en même temps qu'il essaie d'externaliser un petit peu les responsabilités sur la question, par exemple, de la liberté d'expression, il continue d'envisager la mise en place de systèmes de paiement comme le Libra ou la Libra, qui est donc parfois appelée une crypto-monnaie. En tout cas, c'est une façon de dire, puisque sur Facebook, aujourd'hui, on est tous réunis dans cette place publique, et là je mets plein de guillemets, peut-être qu'on peut adjoindre à ce système de circulation de la parole un système de circulation de la monnaie et des avoirs. Et bien ça, c'est problématique.
Julien Lebot, quelle est la suite pour toi après ce livre de 300 pages sur Mark Zuckerberg?
Ce qui est sûr, c'est que je ne pourrais pas arrêter de continuer de le stalker. Je pense que c'est extrêmement intéressant et ça nous dit vraiment quelque chose de très profond sur la façon dont les discours et une opinion publique ou des opinions sont échangées à l'échelle du globe. Et je crois que ce qu'il va arriver à Facebook, et c'est extrêmement important pour l'avenir de nos démocraties.
Merci beaucoup Julien Lebot.
Merci.
À très bientôt. Et donc je rappelle, Dans la tête de Mark Zuckerberg, c'est ton livre qui vient de paraître chez Actes Sud.
Merci Steven. Merci.
atelier@rfi.fr
C'est bientôt la fin de cette émission, place comme chaque semaine à Mondoblog Audio. Comme beaucoup d'entre nous, la mondoblogueuse Lucrèce Gandigbé utilise Facebook. Elle trouve parfois ses amis bien naïfs de raconter leur vie à longueur de journée sur le réseau social. On l'écoute.
Dans un contexte où les données sont l'or noir de notre siècle, Facebook est presque aussi puissant qu'un pays qui possède l'arme nucléaire. Facebook est une dictature. Il n'est soumis à aucune règle. Le géant du net crée sa propre législation et dispose d'un nombre d'utilisateurs suffisamment élevé pour l'imposer. Le comble, c'est qu'il a l'intelligence de le faire passer comme quelque chose qu'on a toujours voulu et attendu. Mieux vous connaître pour mieux vous satisfaire. Le respect de la vie privée, la surveillance de masse, les failles techniques, là n'est pas la question pour Facebook. C'est l'incrédulité et la naïveté des utilisateurs. Comment et pourquoi n'avons-nous pas mesuré la puissance que nous octroyons chaque jour à Facebook et aux réseaux sociaux de façon générale? Alors que faire? Supprimer son compte Facebook et recommencer à échanger des lettres et des cartes postales? La vérité, c'est qu'en quittant un réseau social pour un autre, le problème reste entier. De toute façon, on le sait, si c'est gratuit, c'est vous le produit. Malgré cela, nous continuons à partager un peu plus de nos vies, nos émotions et tout ce qu'il est possible de partager sur cette plateforme. Nous avons fait de Facebook la superpuissance qu'elle est aujourd'hui. Et si l'heure de la révolution a sonné, il nous faut agir intelligemment pour anéantir le monstre que nous avons créé. Plutôt que de quitter Facebook, il nous faut repenser notre rapport aux outils numériques qui, de gré ou de force, font partie de nos habitudes. C'est facile de fustiger Zuck et ses acolytes, mais n'oubliez pas que c'est vous-même qui exposez vos données. Tant qu'on continuera à utiliser aussi naïvement Internet et ses accessoires, aucune loi sur la protection des données ne pourra nous protéger de nous-mêmes. Quel est l'intérêt pour vous de renseigner votre numéro de téléphone sur un réseau social? Combien d'applications sont associées à vos comptes sur les réseaux sociaux? Arrêtons de croire que ce n'est pas bien grave. Changeons nos habitudes en ligne et les supernations virtuelles auront moins de marge de manœuvre.
Mondoblog.org.
C'était Lucrèce Gandigbé du Bénin. Son blog s'appelle Magic Words. Et rendez-vous sur mondoblog.org pour retrouver les productions de centaines de blogueurs francophones, un site qui a fait peau neuve il y a quelques jours. C'est la fin de cette émission que vous pouvez, je vous le rappelle, écouter en version longue sur notre podcast. Simon Decreuse était à la réalisation. Camille Deloche était en charge de Mondoblog Audio. Je m'appelle Steven Jambeau et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de l'Atelier des médias.